Notre invité du matin, c'est Nicolas Mazov, député de la première circonscription. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir notamment sur la visite des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Alors, Yael Braun-Pivet, c'est votre présidente. Vous connaissez aussi Gérard Larcher. Qu'est-ce que vous retenez de leur visite? Elle a été utile? Elle a vraiment servi?
Pour l'instant, elle a été plus utile pour eux que pour nous, dans la mesure où pour eux, ils ont pu constater l'ampleur du désastre économique, social et politique sur le territoire. Pour nous, c'est moins évident, puisque pas d'annonce vraiment de soutien financier. C'est normal, c'est des parlementaires, donc ils s'engagent à soutenir des amendements. Mais on verra bien si c'est voté, puis on verra bien si c'est retenu dans le 49-3. Et puis, toujours pas de méthode et de calendrier sur les discussions politiques.
C'est une bonne nouvelle, tout de même, ce soutien des amendements, parce qu'on pouvait avoir un peu peur après que le budget ait été rejeté par l'Assemblée.
Alors, c'est une bonne nouvelle, et puis j'espère bien que Gérard Larcher, qui est du groupe LR, et Braun-Pivet, qui est de mon groupe à l'Assemblée nationale, soutiennent nos amendements à nous. Ensuite, le souci qu'on a, c'est que les amendements vont être votés, très certainement par le Sénat, mais c'est le gouvernement qui aura le dernier mot, parce que certainement que le budget sera passé par 49-3. Et donc par 49-3, ça veut dire que c'est le gouvernement qui choisit à la fin ce qu'il garde comme amendement et ce qu'il ne garde pas.
Alors, une délégation du gouvernement est actuellement à Paris pour demander des aides financières également. Il y a une autre mission, enfin d'autres élus qui doivent partir d'ici le début décembre pour également parler de cette aide économique et financière.
Oui, moi je crois que c'est bien d'aller à Paris. Je suis de ceux qui disent qu'il faut qu'on aille à Paris. Je trouve même que le gouvernement y va un peu tard, mais il fait bien d'y aller, parce que c'est là-bas que ça se passe maintenant, pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, d'un point de vue institutionnel et puis d'un point de vue économique, puisqu'on sait qu'ici on n'a plus d'argent, on n'a plus de budget, et que donc c'est de Paris que dépend notre survie finalement. Donc il faut aller là-bas, il faut faire du lobbying. Vous savez, quand moi je suis à Paris, je vois énormément de Guyanais, de Tahitiens, d'Antillais, de manière générale, qui viennent défendre leur territoire. Et nous, comme on a une grosse autonomie, on avait perdu cette habitude-là d'aller à Paris. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que le billet d'avion est vite remboursé si on obtient des milliards d'euros de soutien.
Mais toutes ces démarches, elles sont coordonnées ou c'est chacun pour soi, chaque collectivité fait son travail dans son coin?
Oh, vous nous connaissez, Elisabeth. Hein, c'est quand même globalement assez coordonné. Moi, je suis un soutien, vous le savez, du gouvernement Mapou et de son plan S2R, avec qui je travaille bien et je facilite les choses à Paris. Il y a l'initiative du Congrès également. Je crois que tout ça, globalement, bon, chacun essaye d'avoir ses dividendes politiques à travers cette démarche-là, évidemment. Mais je crois que c'est quand même une démarche qui est globalement la même. C'est-à-dire, on explique la situation sur place, on explique que nos fonds sont insuffisants et on explique qu'on a besoin de l'État. Voilà.
Alors, on vous a senti un peu mitigé sur la visite des présidents de l'Assemblée et du Sénat sur, au chapitre de l'avenir institutionnel. Donc, vous dites pas de feuille de route, pas de méthode. Ils peuvent quand même aider, être facilitateurs dans la reprise des discussions. On sait qu'ils ont réuni tous les chefs de groupe au Congrès. Est-ce qu'ils peuvent aider quand même?
Ils peuvent aider, mais je crois surtout que l'initiative, maintenant, elle doit venir de nous. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'on doit commencer les discussions entre nous ici si l'État met du temps à nous poser un calendrier et une méthode. Voilà, donc j'espère que les groupes politiques calédoniens vont pouvoir se réunir à travers une initiative calédonienne pour qu'on commence à débrousser le chemin.
Gérard Larcher a parlé de souveraineté partagée lors de ce séjour. C'est un peu... Ça fait beaucoup réagir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette expression? D'abord, c'est quoi la souveraineté partagée? On ne sait pas trop. Certains disent que c'est de l'indépendance d'association. Gérard Larcher dit que non, c'est dans la République française.
Non, mais vous voyez, rien qu'à travers votre question, on voit la faute politique que c'est. La souveraineté partagée, personne ne sait ce que c'est, et donc c'est de l'ambiguïté. Et l'ambiguïté, c'est ce qui nous a mis dans la situation dans laquelle on est, parce que l'accord de Nouma était ambigu. Il a fait croire aux indépendantistes que c'était un objectif d'indépendance, et il a fait croire aux loyalistes que c'était la France. C'est ça l'accord de Nouméa et son ambiguïté. Et la souveraineté partagée est d'ailleurs citée dans l'accord de Nouméa. Donc en fait, ça veut tout et rien dire, la souveraineté partagée. Et forcément qu'à ce moment-là de l'histoire, après des émeutes, après un statut déjà de très large autonomie où les compétences sont partagées entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, parler de souveraineté partagée, ça ne peut être compris que comme l'indépendance association. Et l'indépendance association, je voudrais en dire quelques mots sur votre antenne, Elisabeth Noir, parce que ça, c'est le truc à la mode en ce moment. C'est le truc à la mode en ce moment, l'indépendance association. Je vais être clair sur le sujet. L'indépendance association, au-delà d'être un déni démocratique et moral, parce que déni démocratique, les Calédoniens ont voté trois fois pour que ça soit français. Donc on ne peut pas dire que derrière, on finit avec une indépendance association. Voilà, ça serait complètement ahurissant. C'est un déni moral. parce que ça voudrait dire qu'il suffit de tout casser, de tout brûler pour qu'on obtienne ce qu'on veut. Donc ça, c'est impossible non plus. Et c'est un déni de réalité aussi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi dépendant de la France que maintenant. Donc comment on fait pour demander des milliards d'euros à la France pour sauver la Nouvelle-Calédonie et dans le même temps demander de transférer d'autres compétences à la Nouvelle-Calédonie et de nous rendre complètement indépendants de l'État? Comment on fait dans les prochaines années, Elisabeth Noir, pour reconstruire la Nouvelle-Calédonie, pour sauver nos entreprises, pour sauver nos institutions, si on demande l'indépendance association derrière? Vous croyez que l'État, qui est en difficulté budgétaire, va dire « Chers Français, chers compatriotes, désolé, on ne peut pas vous construire des ponts, des autoroutes, des hôpitaux et des écoles en Aquitaine, en Bretagne ou en Alsace, parce qu'il faut qu'on donne des milliards d'euros à la Nouvelle-Calédonie qui a choisi d'être indépendante. » Ça ne marchera pas comme ça. On va être complètement ruiné. L'indépendance d'association est une faute politique aujourd'hui, est une faute économique. Et je dirais même plus. Désolé, je vais loin là-dessus parce que j'entends que c'est à la mode en ce moment. L'indépendance d'association, fondamentalement, ça règle quoi? C'est la faute de l'accord de Nouméa. On croit que parce qu'il y a des loyalistes qui veulent la France et des indépendantistes qui veulent l'indépendance, il suffit de trouver le truc au milieu pour que tout le monde soit content. Mais est-ce que l'indépendance association va régler le racisme? Est-ce que l'indépendance association va régler le problème des revendications foncières? Est-ce que l'indépendance association va régler les problèmes de délinquance? Est-ce que l'indépendance association va régler les problèmes d'intégration de la population kanak dans le modèle capitaliste et économique? Non. L'indépendance association, c'est une vue de l'esprit des énarques parisiens qui veulent nous faire croire que c'est la solution d'entre deux. Mais ça, on l'a déjà essayé, Elisabeth. C'est l'accord de Nouméa. On était parti de Matignon et des provinces pour dire on va faire un truc entre deux, une très large autonomie, l'accord de Nouméa. Comme ça, ça va plaire aux loyalistes et aux indépendantistes. On a vu le résultat. Donc l'indépendance association, c'est niette.
Ça se terminait par trois référendums quand même qui devaient effectivement décider si c'était l'un ou si c'était l'autre. En attendant, vous dites que vous attendez des discussions ici avec tout le monde, enfin avec les, à qui autour de la table pour ces discussions, pour parler sur l'avenir institutionnel?
Il va bien falloir parler déjà de nous, il faut qu'on se réunisse, les non-indépendantistes évidemment. Et puis il va falloir parler aux indépendantistes, de l'UNI évidemment, du Palika de l'UPM qui sont quand même les plus constructifs.
Ah, ils prennent leur distance avec le FLN, c'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est bien, c'est excellent. Moi je ne fais pas partie de ceux qui disent un FLNKS uni, ça nous aide dans les discussions. Non, on a besoin d'avoir chez les indépendantistes des gens qui disent que le projet ce n'est pas de casser, de brûler et d'être raciste. On a besoin d'entendre ça, on a besoin d'entendre ces paroles-là. On n'a pas besoin d'un FLNKS uni qui reprend des éléments de langage pour faire plaisir à tout le monde. Je crois que le fait que la démocratie vive, que les opinions politiques divergentes vivent dans le coin indépendantiste est une bonne chose.
Alors, le FLNKS tendance CCAT affirme, lui, que c'est le seul représentant du peuple kanak qui doit être autour de la table, qui doit être partie prenante dans un accord. Est-ce que ça peut compliquer les choses ou non? Est-ce que vous êtes prêt à ce qu'il soit autour de la table?
Moi, j'ai écouté Charles Wachetine sur une télé indépendantiste dimanche soir qui disait que le FLNKS n'était plus crédible. Bon, ben voilà. Je ne vais pas parler à la place des indépendantistes. J'écoute Charles Wachetine qui me dit que le FLNKS n'est pas crédible. Bon, ben, il n'est pas crédible, le FLNKS.
Et la tendance CCAT ou la tendance UC-CCAT, parti trahiste, elle doit être autour de la table ou non? Elle doit participer aux discussions ou est-ce qu'elle s'est délégitimée avec...
Non, tout ce qui est CCAT, moi je considère que c'est des gens qui ne doivent pas être autour de la table. On ne peut pas avoir tout cassé et demander à réparer et demander à avoir des sous pour tout reconstruire. Enfin, on ne peut pas légitimer la violence. Parce que si on met quelqu'un de la CCAT autour de la table des négociations, ça veut dire qu'en fait, il a obtenu cette place en détruisant des familles entières, des vies entières, de maisons, d'entreprises, d'emplois. Est-ce qu'on arrive à la table des discussions parce qu'on détruit ou parce qu'on se fait élire à une élection? Moi, je crois en la démocratie. Si on est un représentant du peuple, on est un représentant du peuple parce qu'on est choisi par le peuple, pas parce qu'on lui a fait tout casser.
Côté loyaliste, vous travaillez à un front uni, l'expression a même été employée, ça veut dire quoi? Vous intégrez tout le monde? C'est un mouvement style un front dans lequel chacun partage les mêmes idées, défend les mêmes choses?
Moi, je crois fondamentalement au retour du RPCR. Voilà. Je crois que Jacques Lafleur avait fait la démarche en 1977, lorsqu'il y avait plusieurs partis non indépendantistes éclatés les uns après les autres, après la dislocation de l'UC, et qu'il y avait une revendication indépendantiste qui montait dans les années 70. Jacques Lafleur a dit la situation est grave. Il y a plusieurs partis pro-français, petits, qui vivotent les uns à côté des autres, avec des personnalités fortes. On va réunir tout le monde et on va faire le RPC d'abord, qui ensuite devient le RPCR avec l'affiliation au RPR. Moi, je crois qu'il faut refaire le RPCR. Je suis convaincu qu'on a besoin de refaire le RPCR. Alors, est-ce que c'est une fédération qui laisse vivre ces petits partis ou est-ce que c'est une fusion ? Ça, c'est de la technique, ça, c'est de la logistique. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est on doit faire un front uni, comme l'était le RPCR, parce que la situation est grave. Parce qu'on a des indépendantistes radicaux qui veulent mettre la Calédonie à terre. Parce que le camp indépendantiste est divisé et qu'aujourd'hui, il y a un palika qui veut essayer de faire quelque chose d'intelligent avec les gens qui essayent de construire la Nouvelle-Calédonie. Donc moi, je dis qu'on a besoin de tous les non-indépendantistes qui fassent front uni. On a besoin de ça.
Avec un projet commun dont avec vous avez déjà les grandes lignes.
Avec un projet commun, moi je crois fondamentalement, avec d'autres, avec Sonia Baquès, avec Gilles Brial, avec le rassemblement d'Alcide Ponga aussi, qu'il faut revenir à l'esprit des accords de Matignon. Je crois qu'il faut, enfin, de manière très pragmatique en plus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de passion dans ce qu'on fait. Il y a quelque chose qui a marché pendant 10 ans, qui était les accords de Matignon, avec des provinces qui étaient fortes, et puis il y a quelque chose qui n'a pas marché. Qui était l'accord de Nouméa, parce que, comme je le disais, il a été ambigu, et qu'en plus, on a transféré des compétences qu'on a été incapable de financer à travers cet accord de Nouméa, et qui a fait de la discrimination positive qui n'a rien résolu, finalement. Donc, je crois que l'accord de Nouméa, qui s'est voulu centralisateur, qui s'est voulu fusionnel entre les uns et les autres, n'a pas fonctionné, alors que l'accord de Matignon, lui, a marché. C'était d'ailleurs le vœu de Dick Ukwewe dans son discours de 85 au Sénat, qui appelait finalement la Nouvelle-Calédonie à devenir une fédération territoriale. C'est le mot qu'il avait employé, Dick Ukwewe, grand leader kanak loyaliste, au Sénat de la République. Donc je crois qu'il faut revenir à des choses qui ont fonctionné dans notre histoire.
Pour faire avancer ces choses, discussion à Nouméa plutôt que des rencontres à Paris, on avait évoqué que le président de la République pouvait vous recevoir les uns et les autres. Finalement, c'est ici que ça va se passer ?
Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps que l'État se mette en place, que ça se cale entre l'Élysée, Matignon, maintenant le Sénat, l'Assemblée nationale et peut-être même la rue Audinot, le ministère des Outre-mer, nous, on n'a plus le temps. Parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte, mais nous, ça dure depuis le 13 mai. Hein, on est fin novembre. Donc nous, on a besoin là d'avancer. Et donc, le temps qu'ils se calent à Paris, nous, on a besoin de discuter et d'avancer entre Calédoniens et peut-être même d'arriver le jour où ils nous inviteront à Paris, que ce soit fin décembre ou janvier, avec quelque chose déjà, avec un travail pré-mâché, hein, avec un travail préparé, pour dire voilà les points d'accord, voilà les points de désaccord entre nous, voilà ce dont on peut parler, voilà ce dont on ne peut pas parler. Voilà, je crois qu'on a besoin de parler entre nous.
Ça, c'est pour l'avenir institutionnel. En revanche, pour les aides économiques, vous allez à Paris, là aussi, vous allez rejoindre ou travailler sur place avec ceux qui essaient d'obtenir des aides pour la Nouvelle-Calédonie.
Oui, ben on est plusieurs à décoller fin de cette semaine. Moi, je pars demain soir et il y a des délégations qui partent début de semaine prochaine aussi pour aller là au Sénat, puisque le budget est passé de l'Assemblée nationale au Sénat, pour aller convaincre les sénateurs de soutenir la Nouvelle-Calédonie. Mais je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense que c'est surtout aussi d'aller voir le gouvernement, parce que comme je le disais, ça va passer par un 49-3, et donc il faut convaincre le gouvernement de garder les amendements dans le texte final. Je sais que le gouvernement de Louis Mapou et notamment avec Christopher Gigès font un énorme travail en ce moment auprès des différents ministres. Voilà, on prend le relais derrière. C'est quand même coordonné, mine de rien.
Merci, Nicolas Mézenc, d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.